France Inter. Les prix des vols aériens vers le Maroc nous ont définitivement convaincus de franchir le pas du train. Pendant ces jours de préparation de notre itinéraire ferroviaire, j'avais en tête les incroyables souvenirs des voyages au bled, enfant, avec mes parents, mes frères et sœurs, dans la grande voiture familiale. Ce long périple qui nous menait de Romorantin-Lontenay à Fès, au Maroc, en traversant la France et l'Espagne tout entière. Il est 3h du matin, lors de chaque départ en voiture pour le bled, c'est le même rituel. Dernière vérification de l'arrimage du chargement sur le toit, dernier sac méticuleusement calé par la main experte de mon père, puis les portes claquent et nous nous enfonçons doucement dans la nuit, laissant Romorantin derrière nous le temps d'un été.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce TER Intercité 98-912 qui relie Salbris à Argent-sur-Sauldre. Ce train desservira les gares entre Salbris et Argent-sur-Sauldre.
Bonsoir, bienvenue Nassira El Mouadem.
Bonsoir Julia.
Ce sont vos mots que je viens de lire, mais qu'est-ce qu'on entend là ?
Là, on entend le BA. Franchement, c'est toute mon enfance, là.
Le BA.
Ouais, le blanc,
blanc argent. Pour les non-initiés.
Exactement, pour les non-soloniaux. Le petit train qui relie donc Salbris au blanc et qui passe par Romorantin. Donc, ouais. C'est la petite Micheline qui nous permet ensuite d'aller dans les grandes villes. Et c'est surtout ce petit train-là qui permet à tous les collégiens et à tous les lycéens de Sologne de pouvoir aller à Romorantin pour aller à l'école.
Donc, il est fondamental. Vous êtes journaliste et notamment à Arrêt sur Image. Vous êtes aussi autrice et dans votre dernier livre, vous l'écrivez, le train a toujours eu le goût de la liberté. Pourquoi ?
Ouais, c'est vrai. Et ça peut paraître un peu paradoxal pour beaucoup. Parce que pour beaucoup, le train, c'est contraignant. C'est des horaires, c'est des correspondances, et il faut être là à des heures fixes. Et en fait, moi, c'est la liberté parce que je lâche prise dans le train. C'est le lâcher prise. C'est la possibilité de contempler, c'est la possibilité de faire plein de connaissances, de lire, de dormir.
Et ado, ça avait le goût de l'ailleurs, quoi, quand vous étiez adolescente.
Ouais, ça avait le goût aussi de la liberté, parce qu'en fait, on prenait le BA pour aller à Salbris. Alors, comme ça, ça paraît complètement dingue de se dire qu'aller à Salbris, une petite ville de 10 000 habitants, c'était de la liberté. Mais en fait, ça nous permettait aussi d'échapper à la pression familiale, ça nous permettait aussi d'échapper aux petits ragots des petites villes de province. On est en pleine ruralité. Et donc, du coup, on prenait le BA, on allait à Salbris, et puis on allait se poser autour de l'étang, et on se racontait nos potins à nous, de jeunes filles.
Et si on rentrait au bled en train, question qui fait titre, question qui fait sens pour vous depuis quelques années, et au-delà de l'anecdotique, c'est déjà un sens politique que vous lui donnez. Vous écrivez, rentrer au bled, en soi, c'est un geste politique. Pourquoi ?
Parce que tous les jours, quasiment, j'ai des gens, sur les réseaux sociaux notamment, parce que ces gens-là ne le disent pas de visu.
Frontalement, bien sûr.
Me demande de rentrer chez moi. Moi, chez moi, c'est partout. Chez moi, c'est ici, à Paris, à Romorantin aussi, au Maroc. Et donc, c'est un pied de nez, en fait, à tous ces haineux, tous ces racistes qui régulièrement me disent « Tu devrais rentrer au bled, toi. » Bah oui, je rentre au bled tous les ans, en train, maintenant. Et puis, je re-rentre après dans mon autre pays. Et en fait, ça va jamais s'arrêter.
Vos parents vous y emmenaient au bled, vos frères et sœurs et vous, tous les ans en voiture, vous le racontez dans ce livre, hein, vous dites aussi comment choisir le train est une façon de vous réapproprier cet héritage, de vous réapproprier votre histoire, de la raconter à votre tour à vos enfants, mais autrement, parce que le monde, lui, a changé.
Ouais, c'est vraiment une histoire de réappropriation. En fait, mes enfants n'ont jamais connu, avant le train depuis 2022, que l'avion pour aller au Maroc. Et l'avion, c'est insipide. L'avion, c'est pas de saveur, c'est pas de goût, c'est un point A, un point B et basta. Là, l'idée, c'était de leur permettre de connaître cette histoire-là. Évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de nostalgie pour moi. Il faut savoir quand même, à l'époque, c'était quand même galère de faire 2 jours et demi de voiture à transpirer avec une chaleur suffocante, sans air climatisé dans la voiture, etc. Mais j'en garde beaucoup de beaux souvenirs, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, beaucoup de responsabilité aussi pour les ados qu'on était, parce que quand les parents faisaient une petite sieste pour récupérer de la conduite, bah, nous, on devait surveiller les bagages. Et donc, moi, je voulais vraiment transmettre cette histoire-là, et je me suis dit qu'en fait, le meilleur moyen de transmettre cette histoire dans l'urgence climatique qui est la nôtre, bah, c'était le train.
Comme dans votre précédent livre, et on en parlera, hein, Nassira El Mouadem, vous partez de vous, de l'intime, pour l'ouvrir à l'universel. Vous écrivez comme mère, vous écrivez comme femme, vous écrivez comme journaliste, comme l'enfant que vous avez été, comme l'adulte que vous êtes devenue. Et tout ça, ça ressemble à... Eh bien, prenez ce miroir, s'il vous plaît. Prenez surtout le temps de vous regarder. Décrivez-vous, dites-nous ce qui vous passe par la tête.
C'est tellement difficile de faire ça, franchement.
Je sais.
Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup se regarder dans le miroir.
C'est vrai ?
Ouais, j'aime pas trop ça. Je trouve que
Et pourtant, vous êtes joliment maquillée, joliment apprêtée. Vous avez un très joli sautoir.
Bah, je vois que beaucoup de défauts, en fait. Et c'est un peu l'histoire de ma vie, ça.
Ouais.
D'être hyper exigeante envers moi-même. Et je pense que c'est une histoire aussi de femme, ça. On a beaucoup tendance à regarder beaucoup les défauts et pas les qualités.
Et si on les oubliait, il y aurait toujours quelqu'un pour nous les rappeler.
Exactement. Mais j'ai les cheveux de ma mère. Et ça, ça me plaît.
Et pour le reste, quel rapport est-ce que vous avez avec votre féminité, pas seulement avec votre reflet ?
La féminité, c'est mon rouge à lèvres.
Ouais.
J'adore mettre du rouge à lèvres, même pour des...
C'est vrai que vous en portez tout le temps.
Ouais,
et
même à la
maison.
Rouge
carmin. C'est vrai ?
Ouais, ouais, à la maison, je mets du rouge à lèvres.
Et le kohl sur les yeux ?
Ah ça, c'est le Maroc aussi. C'est, c'est mes origines, c'est ma grand-mère, c'est ma maman, enfin c'est tout ça, ouais.
Ce miroir, vous le retournez, vous le tendez à d'autres et le « je » devient « nous ». Ce soir, on fait la route avec vous, en marge et en train.
France Inter. En marge.
La ville blanche, éternelle, bouillonnante et mystérieuse. À la jonction de la Méditerranée et de l'Atlantique, Tanger. Dans le nord du Maroc, nous apercevons notre ferry. Il enchaîne les rotations toute l'année.
Alexandre Allais pour cette série Voyager sans avion sur France 2. Voilà un autre son qui a bercé votre enfance, Nassira. Le son du ferry. Qu'est-ce que vous ressentiez au moment où vous le preniez avec vos parents pour rentrer en France ?
Un soulagement.
C'est vrai ?
Bah parce que c'était 2 jours et demi de traversée de la France entière. On partait de Sologne, donc le nord de la France. On traversait toute la France, toute l'Espagne. Il faisait chaud, parfois il pleuvait. Enfin, c'était quand même la grosse galère.
Ouais.
Et donc là, c'était enfin, en fait. Ouais. Alors, on n'était pas encore arrivé, hein, parce qu'après, il fallait continuer le voyage jusqu'à Fès. Donc, c'était encore un peu de distance. Mais il y avait quand même ce soulagement-là. Et puis surtout, l'immensité, quoi. Enfin, c'est l'horizon infini quand on est sur un ferry et qu'on regarde au large. Et puis surtout, l'excitation à l'arrivée près des côtes marocaines. Moi, je me souviens du silence, en fait, sur le ferry. Beaucoup de silence. Parce que je pense que les Marocains qui faisaient ce voyage-là, comme nous, comme mes parents, enfin, ils rentraient chez eux, quoi. Il fallait imaginer que pendant un an, ils ne voyaient pas leur famille. Des familles ouvrières qui devaient beaucoup trimer pour pouvoir juste éduquer et nourrir leurs enfants, sans famille, sans amis. Donc imaginez, au bout d'un an, de se dire « enfin je suis chez moi quoi ». Et je vais pouvoir étreindre mes...
Les miens.
Les miens.
Alors ça c'est pour l'arrivée sur le port, pour le départ. Qu'est-ce que vous ressentiez au moment de repartir, de faire la route en sens inverse ?
Alors, il y avait... de repartir en France, de revenir en France. Beaucoup de tristesse.
C'est vrai.
Ouais, moi j'ai le souvenir tous les ans de mes parents qui pleuraient.
C'est vrai.
Beaucoup.
Ouais.
Et en fait, c'est des images difficiles en fait parce que on n'a pas idée de ce que ça coûte aux immigrés en fait de rentrer en France et de quitter les leurs en fait parce que. Parce que c'est leurs parents, en fait. Ouais. C'est leurs parents qu'ils ne voient pas tous les ans. Et donc, moi, j'ai le souvenir de ma maman, tout le temps, tous les moments où on rentrait, on claquait la porte de la voiture pour rentrer. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle pleurait à chaudes larmes.
Ouais, on quitte rarement sa terre natale par caprice ou par pur confort.
Rarement, ouais.
Vos parents, Rachida et Hassen, se rencontrent au Maroc. Ils se marient au Maroc et puis ils arrivent en France au milieu des années 70. À partir de là... Au-delà de ces voyages annuels, pendant l'année, quel lien est-ce qu'ils gardent ? Comment ils entretiennent le lien avec leur pays d'origine ?
Le téléphone, beaucoup.
Ouais.
Alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc ils s'appelaient beaucoup. Et je me souviens que ça coûtait beaucoup d'argent à mes parents.
Ouais.
Parce qu'il n'y avait pas tous les abonnements qu'on a aujourd'hui pour appeler la Terre entière. Ça coûtait beaucoup d'argent. Le satellite, énormément.
Ouais.
Les chaînes satellitaires marocaines.
Donc, la culture et la langue marocaine vivaient
Et moi,
à
je me souviens très bien qu'en fait, il y avait... un moment très important dans le foyer, à la maison, c'était le moment des JT, des journaux télévisés. Donc on commençait avec France 3, le local, ensuite le régional, ensuite France 2, ensuite un petit peu TF1, et on finissait par basculer par les journaux télévisés marocains. Et donc en fait, on avait 2 heures d'informations qui nous étaient imposées, mais j'en rigole aujourd'hui, mais c'était ça, c'était beaucoup ça, beaucoup
mais
de discussions.
Mais ça raconte beaucoup de choses aussi, ça raconte une prise directe avec le monde, et puis ça raconte comment à partir d'un même fait, on fait une sorte de 360 autour et qu'on entend parler du monde de points de vue différents.
Exactement. Et c'est tout ça en même temps, en fait, les familles immigrées. C'est pas l'un sans l'autre. On parle beaucoup de communautarisme.
Ça se conjugue.
Mais évidemment, c'est des identités multiples qui se nourrissent. On n'est ni 50% ni 50%, on est tout ça en même temps. Et puis la langue aussi, la langue arabe était beaucoup présente à la maison. Moi, j'avais la chance d'avoir un papa qui lisait beaucoup. Il lisait beaucoup l'arabe à partir du Coran. Et il donnait d'ailleurs des cours d'arabe aux enfants à Romorantin, en Sologne. Et il y avait beaucoup d'arabe à la maison, beaucoup de marocains. Et surtout quand ils étaient énervés, ils parlaient marocain.
Ah, ça, c'est typique. C'est la même avec l'italien. C'est à Romorantin, en Sologne, qu'ils s'établissent. Le frère de votre père, il y est déjà. Il travaille dans une usine de céramique. Alors pour votre père, ce sera plutôt les voitures, ouvrier chez Matra. Votre mère, elle est couturière un temps avant de devenir assistante maternelle. Elle s'arrêtera pour s'occuper des enfants. Il y en aura 6 quand même. À la maison, l'ambiance, c'est comment ?
C'est beaucoup d'exigences. Beaucoup de discipline. Mon père était vraiment derrière nous par rapport à l'école.
Il fallait que vous fassiez
tous. Ah ouais, non mais un 17 sur 20, études. C'était pas possible.
Okay.
Il fallait le 20.
Ok.
Si c'était pas le 20, fallait l'expliquer. En fait, on a très vite compris qu'en fait, l'école, c'était ça qui allait nous permettre de nous élever. Sans nos parents, nous l'ont tout de suite. Ils n'avaient même pas forcément besoin d'ailleurs de le formuler.
Ouais.
C'est-à-dire, l'exigence qui était là, la discipline, faisait qu'on savait qu'on n'avait pas le choix. Et puis, on savait aussi que nos parents n'avaient pas les moyens de nous informer sur les métiers qu'on voulait faire. Moi, j'ai une sœur qui est médecin, j'ai un grand frère qui est grand commercial, un autre qui est ingénieur, une autre qui est infirmière, etc. Moi, journaliste, et c'est des métiers que mes parents ne connaissaient pas. Donc, on savait aussi qu'il fallait qu'on se débrouille, en fait, quelque part.
Vous, né très exactement le 23 juin 1984, vous êtes pile au milieu de la fratrie, bonne élève, quoique un peu insolente, vous bossez, vous discutez, vous interrogez tout le temps, partout, les adultes surtout. Dans votre chambre, vous rêvez, un jour, vous fendrez la glace et les étoiles, vous les tutoierez.
L'heure d'Intersoir samedi que nous présente Henri Charpentier, bonsoir.
Bonsoir.
France Inter.
L'exploit du jour. Surya Bonaly, championne d'Europe pour la 2e année consécutive sur la patinoire du Malais à Lausanne. La petite réunionnaise a confirmé dans les figures libres sa domination sur le vieux continent. Ce nouveau sacre est de bon augure à 3 semaines seulement des Jeux d'Albertville.
9 fois championne de France dans les années 90. 5 fois championne d'Europe. Prodige du patin à glace. Surya Bonaly est votre idole. Pourquoi ?
Parce que je voyais bien qu'en fait, elle ne correspondait pas aux normes. Enfin, c'était très clair pour moi. D'abord, il n'y avait quasiment aucune patineuse noire qui s'est lancée sur la glace, ça n'existait pas. Et moi, je me sentais aussi un peu comme ça dans le club de patinage de Romorantin-Lanthenay, j'étais la seule arabe. Et je voyais aussi qu'il y avait une différence, que j'étais en décalage, même physiquement parlant, c'est-à-dire mon corps était différent des autres.
En quoi ?
Ah, j'étais plus athlétique, plus dodue, moins fine, moins esthétique, moins dans les canons de ce qu'on attend du patinage artistique, qui est quelque chose de très féminin, vous voyez ce que je veux dire. Donc je correspondais pas à ça, et en fait Surya Bonaly c'était ça aussi pour moi, et donc je me reconnaissais vachement dans ça. Et puis surtout moi j'ai très mal vécu le fait qu'elle ait pas gagné la médaille d'or dans ces fameux Jeux Olympiques où elle a été volée quoi. En fait à travers ses yeux qui respiraient le sentiment d'injustice, je me reconnaissais vachement, en fait.
Ça vous parlait, vous aussi, vous aviez déjà, à l'époque, cette révolte en vous, cette façon de dire, en fait, puisque c'est pas juste, il faut le changer.
Ouais, moi j'ai toujours eu ce sentiment-là. Et je crois que l'acmé de ce sentiment-là, c'était 2002. Et Jean-Marie Le Pen arrivant en deuxième tour de l'élection présidentielle. Je me souviens que je m'étais révoltée
vous avez 18
au lycée,
ans,
j'étais en terminale. Et il y a d'ailleurs une archive de la Nouvelle République que j'ai retrouvée dans le cadre de l'écriture de mon premier livre, Les filles de Romorantin, qui m'a été envoyée par une copine. Et j'étais tout devant la manifestation, c'est la seule manifestation que des jeunes ont organisée à Romorantin de toute l'histoire de la ville. Et j'étais devant, le poing levé, et pour moi c'était inimaginable qu'on qu'on vive ce moment-là, ce moment politique où l'extrême droite pouvait arriver au pouvoir. Donc oui, je crois que je l'ai toujours ressenti à des degrés différents dans mon parcours.
Alors en attendant de changer le monde, c'est sur ce tube-là que vous dansez.
J'adore.
Mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous ici. Ace of Base, parce que qui vous a initié à ce tube?
Et bah, c'est mon
planétaire.
Je sais plus qui m'a initié, mais en tout cas, j'ai eu comme cadeau, premier cadeau d'un petit amoureux de l'époque, j'avais 11 ans, l'album.
Pas mal. Ace of Base. Bon choix. Adolescente, quels sont vos rapports avec les garçons, avec le désir, avec, avec l'amour, la sexualité, le flirt, tout ça?
C'était assez éloigné. Ouais. Très éloignée même. Moi, je viens d'une famille très religieuse, très pieuse. Mmh. Donc, ces questions-là, elles n'étaient pas, pas abordées à la maison. Beaucoup de pudeur sur ces sujets-là. Mais en revanche, je me souviens d'avoir lu La bicyclette bleue de Régine Desforges.
Il y a peut-être un truc.
Ouais, et ça, c'est peut-être été les premiers moments d'éveil du désir, ouais. Justement.
Vous êtes du genre mélancolique, ado.
Ah,
pourquoi?
Ouais.
Qu'est-ce qui vous pèse?
Je pense que c'est le poids de l'immigration. Et du coup, ça fait le lien avec les larmes de tout à l'heure. C'est-à-dire que ça peut paraître complètement anodin pour le public qui nous entend, là, pour les gens qui nous entendent.
Je crois pas. Je crois qu'on comprend, hein, en fait, qu'il y a des histoires qui sont dans les bagages. Ça peut être un peu lourd, quoi.
Ouais, et je pense que c'est des blessures éternelles. Je pense qu'on ne guérit pas du poids de l'exil. Alors moi, j'ai pas vécu l'exil, mais je l'ai vécu à travers mes parents.
Bien sûr.
Et donc, il y a une transmission. Et donc, je pense que c'est des blessures qui ne se referment pas et qui t'accompagnent et qui font, évidemment, la personne que tu es, les sujets que tu gères en tant que journaliste. Et donc, c'est ça qui fait que je crois que j'ai toujours été mélancolique, c'est-à-dire cette tristesse toujours là, l'attente presque fatale, en fait, contre laquelle on ne peut pas combattre.
Est-ce que, à votre tour, vous aviez envie de, déjà, de ruer dans les brancards, ça, oui, mais
ouais,
par ailleurs, de prendre la route, vous aussi, de partir?
Ah ouais, c'est vrai ça. Mon premier grand voyage, j'avais 21 ans,
ouais.
J'étais étudiante, et je suis partie en Syrie. Et mon père m'a dit, mais t'es complètement dingue, ma fille. Alors à l'époque, il n'y avait évidemment pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était quand même la dictature d'Al-Assad. Et en fait, j'étais étudiante, je travaillais sur les questions du monde arabe, et j'avais une super opportunité, c'est de travailler comme stagiaire au service de presse de l'ambassade de France à Damas. J'avais 21 ans, c'est la première fois que j'allais aussi loin. Et puis ensuite, j'ai pas arrêté. J'ai bourlingué dans tout le Moyen-Orient, à Istanbul aussi pendant une année. Voilà, et j'ai toujours des envies de partir.
Parce qu'il faut dire que Salbris, la ville de 10 000 habitants à côté, c'est bien un temps, mais assez vite, c'est trop petit. Faut partir plus loin.
Même Romorantin, c'est trop petit.
Ouais. Bac en poche, Sciences Po Grenoble, en parallèle, licence d'arabe. Et il est là, le sésame, le billet vers l'ailleurs. Vos 4 ans d'études, ces 4 années passées à bouger. Le Caire, la Turquie, un détour par l'Iran. En train, évidemment.
بقلب الشتي مرقة الغريبة عطيتني رسالة كتبها حبيبي بالدمع الحزين فتحت الرسالة حروف ضايعين ومرقت أيام وغربتنا سنين وحروف الرسالة
La grande, l'immense Férouz a accompagné ces années d'études, Nassira El-Mouadem, années qu'on évoquait à l'instant. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris sur vous-même, ces années entre l'Égypte, entre l'Iran, et puis le retour en France, et puis... Et vos pérégrinations incessantes ?
Beaucoup de choses. D'abord, j'avais pas conscience du poids de nos corps de femmes dans les espaces publics.
Ah oui.
En Égypte, par exemple, au Caire, j'ai été agressée sexuellement plusieurs fois,
oui.
Dans des rassemblements type concert, etc. Mmh. Et j'avais été tellement choquée un jour parce que j'ai été regarder un peu ce qui se disait, ce qui s'écrivait dans la littérature, et je me suis rendu compte que 90% des femmes au Caire, mmh. en Égypte, étaient agressées sexuellement. Donc en fait, toutes les femmes le sont. Et ça a été un choc pour moi, parce que je m'en étais pas rendu compte, y compris dans d'autres voyages que j'avais fait. Donc ça m'a beaucoup marquée. Mais je crois quand même, franchement, que c'est le sentiment de liberté que j'ai appris, ou en tout cas que j'ai voulu conquérir. Et les voyages, c'est ça, c'est la liberté.
Alors un temps vous avez hésité, hein, la carrière en ambassade, ça vous a tenté, mais non, il vous faut du terrain, il vous faut de l'humain. Vous serez donc journaliste en 2010, vous intégrez l'ESJ, prestigieuse école de Lille.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
À quoi ressemble votre vie, votre quotidien pendant ces deux années d'études ? Ces deux
beaucoup
années de
travail.
Ouais.
Je suis un peu en décalage avec le reste de la promotion.
Encore une fois en décalage.
Ouais, c'est l'histoire de ma vie, définitivement. Je suis arrivée, j'avais 26 ans. Les autres élèves étaient plutôt âgés de 20, 21 ans. Mmh. Ils sortaient soit d'une classe prépa ou soit d'une licence. Et moi, j'avais déjà un bon bagage universitaire. Mais en fait, je savais qu'il fallait que je passe par une école de journalisme reconnue pour pouvoir faire ma place. Enfin, clairement, je savais qu'avec le nom qui était le mien, avec le manque du réseau, le fait que je n'y connaissais absolument rien, que j'avais aucune connaissance de ce milieu-là, il fallait que je passe par ce tampon, quoi, ce truc-là. Et en plus, c'est mon père qui nous a toujours dit, c'est les diplômes qui vont vous sauver. Ouais. Et donc, du coup, je rentre à l'ESJ, je sais que c'est une école prestigieuse, mais je travaille beaucoup. Et parce que je travaille aussi, parce que je dois payer mes études. Mmh. Et donc, je travaille aussi à côté. Je travaille beaucoup pour l'école, et je travaille aussi à côté pour financer mes études. Je travaille à Paris.
Vous vivez à Paris le week-end, voilà. Et la semaine, vous êtes à Lille, faites
Exactement.
Des allers-retours, et,
oui.
Et vous bossez aussi bien pour l'école que pour gagner votre vie. Ça veut dire que les soirées BDE, c'est pas trop
Je les connais pas. Non, j'ai pas vécu les soirées étudiantes de l'ESJ, je ne les connais pas.
À cette époque pas si lointaine, le profit des étudiants en journalisme est sensiblement le même partout. On est plutôt blanc, on est plutôt bourgeois, on touche du doigt une forme d'élite au milieu de laquelle vous vous sentez donc un peu, voire très en décalage. Et comment vous décririez vos rapports avec les étudiants qui vous entourent ? Est-ce qu'on vous fait sentir ce décalage ?
Ouais, on me le fait sentir plus que ça d'ailleurs. Hein. Par exemple, à certains moments, certains camarades pensent que c'est une bonne chose de diffuser la Zoubida en cours de télévision, par exemple, mmh. qui clairement pour moi est une chanson raciste. Je reçois un jour un SMS qui ne m'était pas destiné, où je suis surnommée Saddam Hussein, ce genre de choses.
Vous êtes la seule étudiante racisée de votre promo ?
Non, je ne suis pas la seule, il y en a d'autres. Il y a d'abord les étudiants étrangers. Il y en avait qui venaient d'Algérie notamment, ouais. cette année-là. Il y en avait d'autres qui étaient d'origine immigrée. Mais peut-être que d'origine immigrée ouvrière, peut-être que j'étais la seule. Je réfléchis comme ça. Oui, effectivement, il est possible que je sois la seule qui combine ces deux appartenances-là, ethniques, raciales, et puis aussi sociales.
Alors, vos rapports vont se tendre au point que, oui, on peut qualifier ça de harcèlement. Très clairement, vous déposerez une main courante qui, sans surprise, ne donnera rien. Mais votre détermination, elle, rien ne semble pouvoir l'entamer. Deux ans plus tard, diplômée, vous entrez dans la profession par une jolie porte.
Sur iTélé, bonsoir à tous, merci de nous joindre.
iTélé Canal, vous avez gagné un concours organisé pour les étudiants en journalisme. Vous l'avez gagné enceinte jusqu'aux yeux, ou presque.
Mais ils n'ont rien vu.
Mais c'est pas vrai.
Comment c'est possible
ça?
Vous étiez à
7 Julia Foyce.
À combien? J'étais à 7 mois.
À 7 mois.
Ouais, alors j'ai effectivement mis une robe assez ample pour un peu dissimuler, mais honnêtement moi je me suis dit ça va jamais marcher, ils vont le voir, mais en fait ils ont rien vu. Et donc oui, je gagne alors que j'ai un gros bidon de 7 mois.
Et vous commencez à travailler, vous avez accouché une semaine plus tôt, c'est ça?
Exactement. J'ai accouché le 20 août et j'ai commencé le 27 précisément. Et je ne recommande pas ça. Ne faites pas ça chez vous.
Parce que, très concrètement...
Ça a été très difficile. Mon accouchement a été douloureux. Épisiotomie, enfin, forceps, voilà, toutes les réjouissances d'un premier accouchement. Et je ne dis rien, en fait, à ma rédaction parce que j'ai peur. J'ai peur de perdre mon boulot. En fait, j'ai peur qu'on me dise « Non, mais madame, en fait, il faut rentrer chez vous ».
Donc ça veut dire, encore une fois, le rentrer chez vous. Ça veut dire que vous ne demandez même pas d'aménagement. Ça veut dire qu'à aucun moment...
Je finis par le demander, mais parce que je m'écroule de douleur sur ma chaise dans la rédaction. Et autour de moi, personne ne comprend. Et je finis par me confier à ma chef qui hallucine, qui me dit « Mais pourquoi tu nous as rien dit avant ? Mais bien sûr qu'il faut que tu t'arrêtes, etc. » Et donc, ça, en fait, par la force des choses, je suis obligée physiquement de le faire.
Ça, c'est la pudeur dont vous nous parliez il y a quelques minutes, c'est ça ? On vous apprend à ne pas vous plaindre, à ne rien dire.
Alors, on ne m'apprend pas, c'est pas vrai. Je pense qu'on ne m'apprend pas, c'est juste naturel. C'est quelque chose comme ça qui est dans l'air, quoi. On se plaint pas, on a la chance d'être là, on a un cerveau, on est éduqué, on a des parents qui nous ont donné les outils pour pouvoir affronter la vie, et on demande pas d'aide. Enfin, moi, je demande très peu d'aide. Je suis très seule en fait souvent, parce que je me dis qu'il faut toujours que je me débrouille.
2 ans après votre arrivée à ITélé, vous rejoignez l'association Prenons la Une qui lutte contre le sexisme dans les rédactions. Est-ce que ça a un lien, ce que vous vivez à ITélé et l'association ?
C'est tout un lien, c'est-à-dire que l'association, c'est mettre des mots, ça n'existait pas, hein, Prenons la Une, c'est vraiment tout nouveau, mettre des mots sur le sexisme et le manque de représentation des femmes à la télévision. Mmh. Et tout ça, c'est lié avec le manque de représentation des immigrés ou la mauvaise représentation des immigrés, des étrangers, des personnes racisées. Enfin, tout ça, c'est lié, en fait. Mmh. C'est comment on fait en sorte que nos médias à nous, dans lesquels on évolue, soient le plus représentatifs de notre société. Et donc, en 2014, je rejoins Prenons la Une, parce que je suis animée aussi par cet engagement-là.
ITélé, vous y resterez 4 ans, au service économique et social, et puis vous partirez, passerez par la case LCP, la chaîne parlementaire, avant de rejoindre une rédaction que vous connaissiez déjà. Un beau jour de 2015, vous vous retrouvez face à Alain Juppé.
L'heure de recevoir Nassira El-Mouadem pour sa chronique L'Addition.
Oui, mais on a envie de savoir comment vous faites pour récupérer ces 100 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques, monsieur.
Nous faisons toute une série de réformes, madame. D'abord, nous renouons avec une politique qui était intelligente, du non-remplacement à la retraite, d'un départ à la retraite sur deux. Nous avions supprimé 150 000 emplois avant 2012, ce qui prouve que l'UMPS,
c'est une absurdité. Ça rapporte 1 milliard d'euros par an, monsieur Juppé.
Sur des années,
vous voulez 100 milliards d'euros de dépenses publiques en 5 ans. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, ça ne rapporte qu'1 milliard d'euros par an. On fait comment pour trouver les 99 milliards d'euros?
Eh bien, on écoute Alain Juppé pour qu'il aille jusqu'au bout de son
raisonnement.
Par exemple, ça pourrait être une solution.
Voilà, extrait de votre émission L'Addition, diffusée par le Bondy Blog, un média assez singulier dans le paysage audiovisuel français. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas?
Ouais, le Bondy Blog, il est né en 2005. La particularité du Bondy Blog, ce sont des journalistes suisses qui l'ont créé. Et
ah,
non
ça,
des Français.
Ça pas, ouais.
Lors des révoltes urbaines en 2005 à la suite de la mort de Ziad Benaï et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement de donner la parole aux gens des quartiers, de faire en sorte qu'ils racontent leur vie et de ne pas laisser les autres parler à leur place et de déformer leur réalité.
Ce qui en soi est une petite révolution, c'est-à-dire.
Mais c'est une énorme révolution, ça n'a jamais existé.
Les gens des quartiers, c'est des sans-voix.
Exactement. Ou alors, c'est des gens à qui on tend le micro lorsqu'il y a des faits divers. Mais sinon, en dehors de ça, ils n'existent pas. Donc en ça, le Bondy Blog est absolument révolutionnaire et nécessaire.
La première fois que vous y avez mis un pied, c'était en 2008, vous y faites vos premières piges. Qu'est-ce que le Bondy Blog vous raconte du métier à l'époque, au moment où vous commencez à vous dire « Tiens, je voudrais devenir journaliste
» Il met des mots sur quelque chose que je n'avais pas forcément... bien compris, moi venant d'un territoire semi-rural. En fait, je me reconnaissais beaucoup dans cette idée d'être éloignée du centre. Il y a les périphéries, il y a les marges et il y a le centre. Moi, j'étais en marge, mais j'étais dans un autre... dans une autre marge, une marge semi-rurale. Là, j'avais le pied dans une marge périphérique urbaine. C'était différent et c'était similaire à la fois pour ces raisons-là. Et donc, quand j'entends la rédaction du Bondy Blog parler de la représentation des minorités dans les médias, je me dis, ah ouais, c'est vrai en fait. C'est vrai, et en plus de ça, on a vécu la même chose. Mais je ne l'avais pas du tout caractérisée de cette manière-là.
En 2015, vous en devenez la directrice de ce Bondy Blog et rédactrice en chef. À sa tête, vous nouez un partenariat avec Mediapart, vous développez une émission, Les Bâtisseurs, qui sera diffusée sur France Bleu, et vous développez également une éducation aux médias pour vos lecteurs et pour les gens du quartier. L'idée, c'est quoi? C'est qu'entre cette marge et ce centre, il faut établir des ponts, absolument?
Ouais, moi je pense que c'est hyper important. D'abord parce que on voulait aussi former, et on veut former, et le Bondy Blog, ça a toujours été sa tradition de former des jeunes journalistes. Et donc à un moment, si on forme des jeunes journalistes, il faut bien qu'ils travaillent dans des médias. Mmh. Et donc les médias, ils sont partout, ils sont aussi en plein centre, dans la capitale. Et puis aussi, je crois que le France Bleu, à l'époque, avait envie de créer ces passerelles-là, et on s'était dit, bah, en fait, ça va être du gagnant-gagnant, quoi. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas de chapelle, en fait. Il y a évidemment des gens qui connaissent leur vie, et c'est bien de les entendre, mais aussi, c'est bien que les journalistes parisiens puissent venir chez nous, puissent voir un peu comment on travaille, etc. Donc ça a toujours été ça, le Bondy Blog, en fait.
3 ans plus tard, vous avez structuré, nourri, développé ce Bondy Blog. Vous pouvez partir tranquille et le cœur léger, retrouver le cœur de votre métier, retrouver le terrain, retrouver de l'humain, au moment où, comme elle sait si bien le faire, l'actualité se met à s'emballer.
À quoi donc ressemblait cette journée de mobilisation des Gilets jaunes? Un samedi clairement sous tension un peu partout en France. On ignorait quelle serait l'ampleur de ces rassemblements inédits, nés d'un mouvement spontané contre la hausse des carburants. Voici un premier résumé de la journée en images, Diane Schlinger avec nos équipes.
Ils avaient dit vouloir à tout prix atteindre l'Élysée. Ils ont essayé toute l'après-midi.
Le 17 novembre 2018 sur France 2, vous avez une histoire personnelle, une connexion intime même avec le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Ouais, moi je le découvre sur le tard, en fait je ne le savais pas. C'était au moment de mon retour à Romorantin pour faire Les Filles de Romorantin. Je me rends compte et je découvre qu'une amie d'enfance, ma meilleure amie d'enfance, Caroline, est membre des Gilets jaunes à Romorantin. Et donc je me dis... évidemment, il faut qu'on discute, quoi. J'ai envie de comprendre pourquoi. J'ai envie de comprendre pourquoi Caroline est membre des Gilets jaunes. Caroline, c'est une fille de commerçant. Donc, elle avait une position sociale plus privilégiée que la mienne. Et en fait, elle a dégringolé. Socialement parlant, professionnellement parlant. Elle est devenue ouvrière. Et je voulais comprendre ça dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, évidemment, bah, je la suis dans les manifestations, dans les réunions, etc. Et je me rends compte que les Gilets jaunes que je vois et que je découvre à Romorantin sont assez éloignés quand même de la représentation médiatique, je trouve. Il y a un décalage. Et j'ai envie de l'interroger, ce décalage-là.
Alors pendant 3 mois, vous retournerez 3 jours par semaine dans le pavillon de votre mère, hein, et courageuse que vous êtes.
Et courageuse qu'elle est aussi de me supporter.
Vous arpentez le centre-ville à vélo. Qu'est-ce qui vous frappe, Romorantin?
C'est difficile de le dire comme ça, mais franchement, c'est vraiment le mot qui m'est arrivé. C'est la mort.
C'est vrai.
Ouais, c'est la mort. J'ai un centre-ville qui est un cimetière, en fait, à ciel ouvert. Des pancartes de fermeture partout. À vendre. Des magasins que j'ai connus quand j'étais petite. Des pavillons en vente. Et en fait, c'est l'histoire de toutes ces petites villes de province qui meurent parce qu'à un moment, il y a une usine qui a fermé. L'usine Matra, dans laquelle travaillait mon père comme ouvrier automobile, elle a fermé en 2003. Moi, je retourne à Romorantin pour faire ce travail-là. On est en 2019, il s'est passé une quinzaine d'années. Et en fait, la ville a juste périclité pendant 15 ans et rien ne s'est passé.
Vous, entre-temps, vous êtes partie vivre à Paris, vous êtes diplômée, vous travaillez, vous avez travaillé dans des rédactions prestigieuses. Vous êtes mariée, vous êtes devenue mère de famille. Comment vous êtes accueillie quand vous retournez là-bas?
De manière très ambivalente. D'abord, je retrouve des amis, donc on se rappelle les souvenirs d'enfance, etc. Et ça, c'est joyeux et c'est beaucoup d'émotions. Mais je suis aussi la journaliste de Paris. Je ne suis plus Nassira El-Mouadem, uniquement la fille de Romo. Et donc, du coup, on me demande des comptes. Et ça, je le comprends. notamment dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Quand j'assiste à une des premières réunions du mouvement des Gilets jaunes à Romorantin, on me demande « T'es qui ? Tu travailles pour qui ? T'es BFM ? Chaîne d'information en continu ? Qui t'envoie ? Pourquoi ?»
Ça veut dire scène de questions. Ça aussi, c'est un lien entre vos lecteurs du Bondi Blog et les habitants de Romorantin. C'est cette défiance envers les médias, cette défiance envers une forme de pouvoir, qu'il soit médiatique ou politique. Ça, vous le ressentez aussi très fort.
Oui, il faut y répondre. Il ne faut pas être dans le déni, en fait. Ni être dans le déni, ni être dans la posture, ni être dans un truc de condescendance ou d'ascendance. En fait, moi, je la comprends, cette méfiance et cette défiance-là. Je la comprends beaucoup. Et donc, du coup, j'accepte le jeu de répondre aux questions. Parce qu'en fait, être journaliste, c'est pas uniquement asséner de questions les gens qu'on va interroger, évidemment, et on le fait avec les politiques et de la manière dont il faut le faire, de manière ferme, etc. Mais quand on a des gens... les gens devant nous et qui nous posent des questions, en fait on doit être dans un échange et on doit être dans une relation horizontale et c'est pas déprécier le métier que de répondre aux questions alors que c'est nous qui devons poser les questions. Je pense qu'il faut d'abord passer par là pour nouer le dialogue et puis ensuite faire notre métier.
L'une des questions qui traverse votre livre Les filles de Romorantin, c'est qu'est-ce qui fait que moi je suis partie et que eux ils sont restés. Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus aujourd'hui ?
C'est très difficile, moi, je trouve, parce que je pense que des parcours comme le mien, ça reste des erreurs statistiques. Mmh. Ça reste des anomalies de la sociologie. Le « quand on veut, on peut » que j'ai beaucoup entendu, j'y crois pas. C'est pas parce que j'ai voulu que j'ai réussi. C'est parce que j'ai eu des parents qui ont été derrière moi. C'est parce que j'ai rencontré aussi des bonnes personnes. C'est pas une question de volonté. Moi, j'ai plein de contre-exemples de gens qui ont voulu et qui n'ont pas pu, et qui n'ont pas réussi. Et ça, c'est un problème, en fait. Parce que y a quand même toujours, en France... ce discours de la méritocratie républicaine. Mmh. Tu mets tous les moyens dans les études, à un moment ou à un autre, ça va marcher. Mais en fait, mine de rien, à un moment, ça ne marche pas. Il y a le plafond. Il y a le plafond de verre social, de genre, racial. Et ça, il faut vraiment qu'on y réponde. Parce que le problème, c'est qu'il y a le problème, c'est que les jeunes ne croient plus à l'école. Et je pense que c'est le pire qui peut arriver à une société, c'est de ne plus croire en l'école.
Alors vous êtes partie, mais pas complètement. Vous écrivez dans ce livre, Les filles de Romorantin, on ne quitte jamais vraiment son chez-soi. Le pays natal se rappelle à nous sans cesse, on y reste attaché par fidélité, par amour, par nécessité, parce que c'est là que tout commence.
En marge. Sur France Inter.
Zarzour. من جيل هذا اش تمريض اش من قوم بنادم سي بنادم بيه نادم ونادم ضرب حتى طلويل خارج في نصاص الليل بغني انا نبغيه يا حبيبتي مستحيل صحابك كان كافي شيطاني يا لافي زينك ما كيصوفي يا حبيبتي.
Qu'est-ce qu'on entend là, Nassira ?
Zalzour. Et ça, c'est un titre tube de l'été, je crois, 2022-2021 au Maroc, peut-être un peu après. Et c'est un tube qu'on a écouté pendant toutes les vacances avec mes enfants.
Un été clé pour vous, pourquoi ?
Parce que 2022, les frontières rouvrent après le Covid. Tout le monde veut rentrer au Maroc. Tous les enfants d'immigrés, toutes les familles immigrées marocaines veulent rentrer au bled, après avoir été empêchés à cause de l'épidémie. Et donc on va tous sur les sites des compagnies aériennes, et là les prix sont juste hallucinants. Évidemment impossible pour nous avec le budget qui est le nôtre d'y aller, et donc du coup je dis, bah, tiens, on va regarder le train. Et je regarde le train, et le train est moins cher. Et donc on décide de partir en train au bled pour la première fois.
Parce que faire une croix sur le Maroc, ça pour le coup, c'est impossible. Et pour vos enfants ?
C'est impossible parce qu'en fait, ça fait partie de ma vie. C'est comme ça, c'est tous les étés, je vais au Maroc. Enfin voilà, c'est comme ça. C'est inscrit dans l'ADN. En plus, moi, mon mari, ses parents sont au Maroc. Donc évidemment, lui, il a besoin de les voir, ce qui n'est pas le cas pour moi. Mais c'est charnel, quoi. On a besoin de ce truc-là. On en a besoin pour survivre aussi, quelque part, à l'ambiance d'extrême-droitisation de la France, quoi. On a besoin de ce retour aux racines.
Et puis, c'est une part de votre identité que vous voulez transmettre permettre à vos enfants, ça fait partie de leur histoire, il faut leur raconter aussi cette histoire-là.
Ouais, il faut la raconter, et c'était aussi l'idée de faire ce voyage en train-là, parce qu'en fait, moi j'ai vécu le voyage en voiture au bled avec mes parents, et évidemment aujourd'hui c'est beaucoup de souvenirs de nostalgie, c'était un peu galère à l'époque évidemment, mais je voulais qu'ils connaissent ça, quoi. Et ils l'ont pas connu avec l'avion, et donc je me suis dit, mais de quelle manière on peut le faire, on peut leur permettre de se réapproprier, de se faire cette histoire-là à eux, dans l'urgence climatique qui est la nôtre. Et en fait, le train, il permet ça. Et donc, aujourd'hui, je refais les petits plats de l'enfance que j'ai eus, c'est-à-dire les œufs durs au cumin que ma mère, elle préparait la veille pour le pique-nique sur la route, les sandwichs au thon à la tomate, parce que c'est super pas cher et que c'est bon aussi. Qu'est-ce qu'on faisait ? Le poulet froid, la salade de pommes de terre, les poivrons grillés. Et donc, tout ça, on le fait ensemble. Donc, je refais tout ça avec mes enfants. On fait ses pique-niques et on prend le train. Et donc, depuis 2022, on ne fait que ça.
En quoi est-ce que c'est mieux que la voiture avec vos parents ?
Ah, c'est une putain de bonne question, ça, Julia Foyce. Ça sera jamais mieux que la voiture avec mes parents. C'est impossible. Pour moi, en tout cas, c'est impossible. Ouais. Parce que c'est mon enfance, c'est impossible.
Bien sûr.
Mais en revanche, j'ai cette obsession de recréer ces moments-là. En tout cas, ce qui est génial en train, c'est le fait de pouvoir contempler. Et on a quand même une chance incroyable. Allez, vas-y, soyons un petit peu chauvins. On a un magnifique pays. Donc, on traverse toute la France et on voit de nos yeux, parce que quand on est en avion, on voit rien, on voit que des nuages. Là, on voit tout. On voit tous les paysages défiler.
Et de génération en génération, on passe le relais, on se raconte l'histoire et la boucle avec vous. Et presque bouclée, Nassira, sur votre route ou sur les rails, toujours avec vous, sans doute même en train. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais ? L'objet que vous avez toujours avec vous.
C'est super original pour un journaliste, pour une journaliste, un petit carnet. J'aime bien écrire tout ce qui me passe par la tête. J'aime bien aussi écrire les souvenirs avec mes enfants, parce que j'ai pas envie que ça parte.
Et vous les écrivez là, sur ce carnet ?
Toujours, toujours. Et vraiment sur le moment où ça se passe, parce que nos vies, elles sont à 1000 à l'heure, et donc j'ai peur d'oublier. Donc voilà, c'est mon pense-bête à moi.
En Marge, c'est terminé pour ce soir. Nassira El-Mohadam, merci d'être venue partager avec nous votre histoire, votre goût du voyage et votre amour des trains. Et si on rentrait au bled en train, c'est le titre de votre livre édité chez Voyage Gallimard. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.